Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonjour à toutes et à tous, 20e émission de cette année 2025, Femmes libres, une émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Alors l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, vous pouvez aller sur notre blog émission-femmes-libres-et-attaché.blogspot.com. Et n'hésitez pas non plus à aller sur notre blog pour écouter les émissions, avoir le programme et pensez aussi à nous suivre sur Facebook et sur Mixcloud. Alors le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex, puis la tribune libre, consentement ou pas, la deuxième partie, et Dominique Martre en troisième partie, le grand banquet, l'Arzul, un siècle dans une conserverie bretonne aux éditions Locus Solus, paru en 2025. C'est une chronique vivante sur un mode ethnographique, s'appuyant sur des archives rares, des témoignages et des photographies. Une longue histoire de la conserverie L'Arzul depuis 1906, légumes, poissons, viande, des dynasties d'ouvrières dans un siècle d'évolution technique et de lutte sociale. Et puis pour finir, des informations, des communiqués, des rendez-vous. Mais pour commencer, la chronique féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière domestique.
Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Alors chaque semaine, nous faisons état de la recension dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France. Chiffres à minima. De nombreuses affaires non comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux, perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants, à disposer de leur vie. Alors, le 30e féminicide de l'année en France a eu lieu samedi 17 mai dans le quartier français d'Orléans à Saint-Martin. Claire Price, une quadragénaire, a été battue à mort par son compagnon Raymond, quadragénaire, au domicile de ce dernier. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Le procureur de la République a confirmé qu'une enquête pour homicide est ouverte. C'est un féminicide. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Alors, Radio Libertaire 89.4, nous allons maintenant passer la tribune libre de Marie-Jo, le consentement ou non.
De consentement. Délicate question, particulièrement quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles. Cette notion est de nouveau abordée depuis l'affaire des viols de Mazan, procès historique qui a jugé fin 2024 51 personnes accusées de viol sur la personne de Gisèle Pellicot. Cette femme était l'épouse sédatée d'un homme lui-même violeur qui l'a livrée à des inconnus pendant une dizaine d'années. La plupart des hommes jugés considéraient que l'accord du mari valait accord de la femme, même muette, même transformée en pantin. Que dit la loi ? Selon l'article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Et selon l'article 222-23 du Code pénal, toute pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génical commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Il est manifeste cependant que la loi ne répond pas à la réalité qui constate que moins de 1% des 60 898 plaintes déposées en 2023 aboutissent à une condamnation de l'agresseur. De plus, nous savons, par le biais de l'arrêt Duba de 1857, qu'une personne endormie n'est pas en état de donner son consentement et qu'il s'agit d'un viol par surprise. Donc, tout est clair sur le plan législatif dans ce procès. Et pourtant, l'incapacité de la justice à prendre la mesure de la gravité de cette notion de viol nécessite une réflexion approfondie. Il se dit par exemple que la notion de consentement serait insuffisamment considérée dans le processus judiciaire. Pour tenter d'y voir plus clair, je vous ai fait part lors de ma tribune précédente d'analyses différentes de deux associations féministes, Nous Toutes et Oser le Féminisme, qui ont des positions opposées. C'est-à-dire que Nous Toutes souhaiteraient préciser la loi et Oser le Féminisme pense que ce n'est pas utile. Pour tenter d'y voir plus clair, je vous donne l'avis circonstancié aussi de Isabelle Thieuleux, avocate. Elle anime aussi un blog dans le club de Mediapart et est impliquée dans la lutte contre les violences et a une toute autre approche de ce qu'est le viol et la place du consentement dans ce cas de figure. Et enfin, J'ai consulté et actualisé l'article de Marie-Pierre Bourgeois qui nous fait part de sa démarche des députés sur le sujet. Qu'est-ce que nous dit Isabelle Thieuleux ? Je cite. Depuis quelques mois, un débat public émerge concernant la nécessité de modifier la définition pénale du viol et autres agressions sexuelles pour y inclure la notion de consentement ou accord volontaire ou encore volonté libre de la victime, au prétexte que cette rédaction faciliterait la répression de ces violences et fixerait une ligne de démarcation entre ce qui relève du crime d'une part et de la sexualité d'autre part. Cette proposition est avancée à grand renfort d'arguments juridiques. La loi actuelle poserait une présomption de consentement. La notion de contrainte ne permettrait pas de prendre en compte les circonstances environnantes, c'est-à-dire l'effet de sidération de la victime, l'abus de la vulnérabilité, etc. etc. Séduisante, à première vue, elle emporte aisément l'adhésion de celles et ceux qui mobilisent le bon sens. Après tout, l'idée que le viol est une relation sexuelle non consentie est communément partagée par une majorité de personnes. Mais comme souvent, en matière de lutte contre les violences masculines, c'est une fausse bonne idée. Grâce au mouvement féministe des années 70 et à la connaissance acquise de cette criminalité par les associations qui œuvrent depuis 40 ans à l'aide et à l'écoute des victimes, nous savons ce qu'est le viol. Comment il est commis, par qui, sur qui, grâce à quoi, pourquoi. Nous savons que le viol est un acte de prise de pouvoir, de domination et de destruction de l'autre. Le processus de haine est le moteur du passage à l'acte. Et dans un système patriarcal, il s'exerce très majoritairement par des hommes sur les femmes et les enfants. Précisément pour maintenir ce système. C'est un acte de torture. Par les conséquences traumatiques qu'il engendre et le silence dans lequel il emprisonne ses victimes. Il est l'une des plus graves violations des droits fondamentaux, le droit à l'intégrité physique et une violation du droit à la dignité. Nous savons qu'il n'a rien à voir avec la sexualité. Il n'est ni une sexualité pulsionnelle, ni une sexualité déviante, encore moins le résultat d'un quiproquo ou d'un malentendu. L'écoute des victimes est la source primaire et principale qui nous permet de saisir au plus juste la criminalité sexuelle, ses modes opératoires, sa signification. Depuis 40 ans, elle a permis l'émergence d'un schéma unique de fonctionnement des criminels, quel que soit le contexte, modélisé, sous le vocable « stratégie de l'agresseur ». Ce schéma identifie les différentes étapes créées par les agresseurs sexuels. La mise en confiance, l'isolement, la mise sous terreur, l'inversion de la culpabilité, l'imposition du silence. C'est le squelette même des crimes sexuels. Pour parvenir à ces fins, à savoir l'acte de pénétration ou le contact physique sexuel, l'agresseur doit effectuer un certain nombre d'actes, de paroles, de comportements qui lui permettront d'avoir accès à sa proie en dehors du regard d'autrui, de la priver de soutien, de secours, d'endormir sa méfiance, de l'empêcher de réagir en la privant de ses systèmes d'alerte ou en la terrorisant, de l'empêcher de comprendre le viol comme une violence, en le faisant passer pour un acte sexuel, de la culpabiliser, voire de la faire participer à sa propre agression et enfin de lui ordonner le silence en l'humiliant et en la menaçant. Point question d'accord volontaire, de volonté libre de la victime et encore moins de consentement là-dedans. Les crimes sexuels sont le résultat d'un processus de l'agresseur, de choix de la proie, de création de circonstances favorables à une attaque, d'attente, de manipulation, de destruction des résistances. Ce squelette, maîtrisé par les militantes féministes intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, est parfaitement inconnu du grand public et très peu connu de l'ensemble des professionnels qui auront affaire à ce type de violence, y compris les acteurs et actrices judiciaires. Pourtant, tout ce mode opératoire rentre dans le cadre légal des notions de contrainte et surprise, éléments constitutifs centraux de la définition du vol dans le code pénal, qu'il est nécessaire d'établir afin de poursuivre l'agresseur et de le condamner. Interprétées comme elle se doit, les notions de contrainte et de surprise couvrent ainsi l'ensemble des situations de viol et d'agression sexuelle. Nous allons faire une pause musicale avec les Ritamix Ruto, dans l'époque où ils disaient « Dis-moi oui ».
Ça fait un moment que je te suis aimée. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, me dis quoi? Oh, dis-moi oui.
Dans BFM TV le 26 mars, l'article de Marie-Pierre Bourgeois nous livre le cheminement des parlementaires suite au rapport Guérin-Rioton qui a abouti à une proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er avril. L'objectif est de compléter la définition du viol telle que je vous l'ai présentée au début de la tribune. En janvier dernier, la députée Renaissance Véronique Rioton et sa collègue écologiste Marie-Charlotte Garin, qui ont rendu ce rapport, ont estimé nécessaire de maintenir les quatre critères déjà existants de la définition pénale du viol, mais souhaitent introduire à nouveau celui du consentement. La proposition de loi veut préciser cette notion de non-consentement de la victime afin de caractériser le viol et les autres agressions sexuelles. Le site Vie publique donne les informations suivantes. L'article 222-22, alinéa 1 du Code pénal, propose la formulation suivante. Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, etc. etc. Et le texte précise la notion de consentement et la manière de l'apprécier. Le consentement devra être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, sans pouvoir être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Par exemple, victime endormie, soumise chimiquement ou inconsciente. Cette référence aux circonstances environnantes qui figurent dans la Convention d'Istanbul permettra de s'interroger davantage qu'aujourd'hui sur le comportement de l'auteur dans le cadre de l'enquête judiciaire, notamment dans les situations de vulnérabilité, et d'éviter ainsi que l'investigation ne soit centrée uniquement sur la victime. Surtout, il n'y aura de consentement si l'acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Je précise que cet ajout, quelle que soit leur nature, est suggéré par le Conseil d'État et vise à souligner leur variété, état de sidération ou emprise, etc., et devrait entraîner une répression accrue. Enfin, la définition du viol ajoute les actes bucco-anaux. Les députés ont demandé au gouvernement la remise de deux rapports évaluant les effets de la loi, notamment sur le pourcentage des plaintes déposées par rapport au total des agressions sexuelles et sur le traitement judiciaire des violences sexuelles. Actuellement, le texte est en cours d'examen par le Sénat. Les arguments pour cette redéfinition de la loi sont les suivants. Si le critère d'absence de consentement est bien présent dans les enquêtes pour viol, notamment lors des interrogatoires, cette notion n'est pas édictée en tant que telle parmi les critères caractérisant ce crime. En France, la définition juridique des infractions sexuelles n'est pas fondée de manière explicite sur le consentement libre et non équivoque de la victime, regretté en 2019 le groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur l'action contre la violence à l'égard des femmes, le GRÉVEAU. Alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi l'absence de cette notion est préjudiciable à certaines victimes? Ce phénomène aboutit, d'après certains juristes, à ce que de nombreuses plaintes soient classées sans suite, faute d'infraction et suffisamment caractérisées. L'interprétation des éléments matériels qui définissent le viol et l'état actuel du droit, la violence, la contrainte, la menace et la surprise, ne permettrait pas de couvrir un large spectre de cas caractérisés par un état de sidération de la victime, une situation d'emprise ou encore d'abus de vulnérabilité. Selon une enquête de victimation menée par l'INSEE et relayée par nos confrères du Monde, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol ont donné lieu à une condamnation en 2023. Ce chiffre est donc très faible, alors que 60 898 plaintes ont été déposées pour des violences sexuelles la même année, suivant un rapport de l'Intérieur. Selon une enquête de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, près de 30% des femmes de 18 à 69 ans déclarent en France avoir subi une tentative ou un acte sexuel forcé. Que changerait concrètement la loi? Concrètement, introduire le non-consentement dans la loi inverserait le déroulement des enquêtes de police. En droit français, les auteurs bénéficient d'une présomption de consentement de leurs victimes, explique Catherine Lemagueresse, docteur en droit et auteur de « Piège du consentement pour une redéfinition pénale du consentement sexuel » auprès du journal Le Monde. Il serait intéressant, dit-elle, de rajouter une couche de sécurité juridique supplémentaire. Il est interdit de toucher au corps des autres, à moins d'avoir obtenu un accord libre et éclairé, juge encore cette spécialiste. Mais l'ajout de l'absence de consentement dans la loi divise profondément les juristes, avec la crainte que ce soit désormais à la victime de prouver qu'elle n'a pas consenti à avoir une relation sexuelle. Croire qu'il suffit de définir le viol par le consentement pour y mettre fin est illusoire, avance la philosophe Manon Garcia dans une tribune pour Libération. La philosophe espagnole Clara Serra Sanchez s'inquiétait, elle, en décembre 2023, dans les colonnes du Nouvel Obs, que la définition du viol prenne la forme d'un contrat dans les relations intimes. Les chiffres montrent cependant que le changement de définition a une vraie incidence. En Suède, par exemple, une loi sur le consentement sexuel qui considère le viol comme viol tout acte sexuel sans accord explicite, même en l'absence de menace ou de violence, est en vigueur depuis 2018. Et conséquence, le nombre de condamnations pour viol a augmenté de près de 75% de 2017 à 2019 dans le pays. Les députés appellent également à ajouter le critère de circonstances environnantes qui figure dans la Convention d'Istanbul, un texte issu du Conseil de l'Europe pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce critère vise à éviter que les investigations ne se concentrent exclusivement sur la victime, mais davantage sur les agissements de la personne mise en cause, au regard en particulier de la situation de vulnérabilité dans laquelle la victime a pu être placée ou dont l'auteur a profité. Quelle est la suite pour la proposition de loi ? Plusieurs options sont désormais sur la table pour la France. La proposition de la loi étudiée le 1er avril à l'Assemblée doit être à l'étude dans l'hémicycle dès la semaine suivante à cette première étape. En cas de forte mobilisation à gauche et à Renaissance, elle pourrait être adoptée dans un format très proche de la volonté des deux rapporteurs. Mais LR y est très opposé et le RN entretient le flou sur le sujet. Le gouvernement pourrait également vouloir amender ce texte en se contentant d'introduire dans la définition pénale du viol l'expression « commis sans consentement ». Cette notion jugée floue par les juristes ne changerait probablement pas la donne. Pour conclure, on peut dire que ces quatre analyses ont le mérite d'aborder cette question du consentement de la victime sous des angles très différents, donnant ainsi matière à complexité du sujet. Elles nous permettent ainsi d'avoir un regard plus large sur la société dans laquelle nous vivons. La culture du viol est ainsi apparue comme une caractéristique majeure qui imprègne fortement toutes les strates de la société qui ont leur mot à dire sur le sujet, comme la justice, le social. Il me semble qu'une formation dans un premier temps de ces pouvoirs décisionnaires doit être envisagée de telle façon qu'une approche sociologique permette une meilleure connaissance de tout ce qui concerne la délinquance contre les femmes et la réponse judiciaire qui en découle. Les préliminaires concernant la fabrication d'une loi me paraissent actuellement insuffisants. Répondront-elles aux carences largement constatées ? Car ce qui me pose question est leur antagonisme et le consensus à trouver. Nous avons affaire à des spécialistes sur le terrain qui expliquent sans détour qu'il n'y a rien de sexuel dans un viol. C'est une torture et il ne peut y avoir de consentement dans une telle situation. Puis nous écoutons des juristes, des avocates et des avocats qui manifestement sont baignés dans cette culture du viol qui biaise ainsi complètement leurs propos. Enfin, des militantes féministes elles-mêmes ont des approches différentes et des conclusions différentes. J'ai parlé de formation pour le personnel professionnel pour faire évoluer les lois. Mais nous savons bien que c'est carrément un changement de société qui s'impose, redéfinissant les rapports femmes-hommes dans sa globalité et devant aboutir à un changement profond, majeur, urgent, qui permettra que le patriarcat n'ait plus cours. Cette question est symptomatique du dysfonctionnement profond de notre société et de sa dangerosité. Peut-on espérer qu'elle soit une étape pour une remise en cause plus globale ? She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun, we up all night to get some. We up all night for good fun, we up all night to get lucky. We up all night to get lucky, we up all night to get lucky. We up all night to get lucky. The present has no living. Your gift keeps on giving. What you did, I'm feeling. If you wanna leave, I'm ready. I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some.
We up all night for good fun. We up all night to get lucky. 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 Like the legend of the phoenix. Ooh, up, up, up. All ends with beginnings. Ooh, up, up, up. What keeps the planet spinning? Ooh, up, up, up. The force from the beginning. Ooh, up, up, up. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some. We up all night for good fun. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky.
Radio Libertaire 89.4. Alors nous allons passer à la troisième partie de l'émission Femmes Libres et je vous propose d'écouter une interview de Dominique Martre réalisée par Hélène.
L'audio wonk, au vent n'est d'un viage, trimarte l'audio wonk, tra la 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 la, trimarte l'audio wonk, au vent n'est d'un viage, au vent n'est d'un viage gay, au vent n'est d'un viage, au vent n'est d'un viage gay, au vent n'est d'un viage, gonna I'm not there.
Bonjour Dominique, on se connaît déjà puisque tu étais venue parler de, du livre que tu avais fait sur les femmes en Kabylie. Oui. Hein, et c'était vraiment, j'ai un bon, très bon souvenir de ce livre. Là, tu reviens pour un autre livre qui s'appelle Le Grand Banquet, L'Arzul, un siècle dans une conserverie bretonne. Et c'est aux éditions Locus Solus. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Ça nous expliquera aussi pourquoi tu as fait ce livre assez vite, je pense.
Ah, c'est vite, j'ai mis 2 ans quand même.
Bon, oui.
D'abord, je suis ravie de te revoir, Hélène. J'ai aussi un très bon souvenir de la Kabylie, de ce livre. Et alors, je suis en fait formatrice, mais je suis quelqu'un... Bah, d'abord, je suis bretonne. Je suis née donc à Rennes, mais toute ma famille est d'origine bigoudaine. On aura l'occasion d'en parler. Et oui, je suis partie, j'ai commencé par faire des études de lettres. J'ai été prof très jeune, en fait, en France, en Bretagne. Puis, je suis partie en Kabylie. Voilà. Et la Kabylie, ben, comme je l'ai déjà dit, a vraiment changé, finalement. Hein, ça a été une aventure très forte. J'avais que 22 ans. Et je pense que ça a déterminé beaucoup de choses. Donc, après, quand je suis revenue en France, ben, j'ai fait plusieurs activités. J'ai été... journaliste à Ouest France, je suis devenue formatrice, j'ai été secrétaire générale d'un centre dramatique national à Rennes, justement, où je suis revenue, et comédienne même, professionnelle, et puis après, je suis montée à Paris, comme beaucoup de Bretonnes, il n'y a pas que Bécassine, et là, je suis devenue véritablement formatrice, donc ben dans les domaines qui m'intéressaient, qui étaient écrire et parler, donc métier que j'exerce encore. Et parce que pour moi, les relations humaines, c'est véritablement central. Mais en même temps, parallèlement, quand je faisais ces études, quand j'étais formatrice, j'ai repris des études et j'ai fait des études d'ethnologie, puisque j'avais vu que mon matériau ethnographique, c'était un journal, en fait, en réalité, au début, sur la Kabylie, était intéressante. Et puis, du coup, les deux livres bassonnaient pratiquement en même temps, puisque j'ai fait ces études dans l'idée de préparer une thèse sur justement mon terrain en Kabylie, notamment les femmes. Peut-être on est dans une émission de femmes, ça peut être intéressant de maintenant qu'il y a MeToo et qu'on peut parler librement, de dire que c'est parce que je n'ai pas voulu en fait coucher avec le directeur du département d'anthropologie où je faisais mes études, que je me suis dit, bah, tant pis, je vais vers la femme que j'ai comme prof, et il n'y en avait qu'une, c'était Tiphaine Barthélémy, et elle travaillait sur justement la Bretagne, le monde rural, les traditions rurales, etc. Donc je me suis, tournée vers elle, et puis j'ai fait la vraiment première partie qui constitue véritablement mon socle de ce livre, qui était un mémoire de maîtrise en ethnologie, et donc basé sur sur l'usine de mes ancêtres. Donc c'est là que j'ai collecté le maximum d'entretiens. Et puis j'ai pas été au-delà, j'ai continué à être formatrice de toute façon, et en même temps j'ai rencontré un peu plus tard Claudine Vassas, qui elle était chercheuse au CNRS en anthropologie et du labo anthropologique de Toulouse, qui explique que je suis à Toulouse, et qui a accepté de diriger ma thèse. C'est-à-dire, c'est plutôt qu'elle m'a tellement entendue, je voulais lui demander si elle connaissait quelqu'un qui pourrait m'aider pour une thèse sur la transmission du pouvoir dans les entreprises. Bon, ça l'a branché pas trop, mais elle m'a dit, en dehors de ça, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Je lui ai raconté toutes mes histoires de femmes, etc. Et là, il y a eu un moment où elle m'a dit, je comprends pas, la Dominique, c'est passionnant ce que tu racontes, t'as un matériau énorme en ethnographie, pourquoi t'écris pas sur cette expérience kabyle? Donc il y a eu un grand éclat de rire, et puis du coup, pouf, je me suis réorientée vers la Kabylie. Voilà, il y a des liens très étranges, oui. Parce que mon grand-père est mort quand j'étais en Kabylie.
En Kabylie, en 75.
C'est ça. Le préfacier, donc Jean-Michel Le Boulanger, il m'a rencontré parce que j'avais écrit ce livre sur Mchedala, ex-Mayo, et que son père à lui, c'est un historien, donc un homme politique également, et en fait, son père y avait été militaire. Hein, Et on a pu communiquer sur la Kabylie, ça l'a passionné. D'ailleurs, il travaille maintenant sur les archives de son père. Malheureusement, son père est mort. Et quand il a voulu l'intéresser à mon livre, c'est trop tard. C'était vraiment une question de quelques semaines, quoi.
Alors, pour que les auditrices et auditeurs comprennent bien, dans les années 90, on est dans les années 90 quand tu fais tous tes entretiens.
Oui, voilà, les premiers, oui. Hein,
les entretiens à la fois pour la Kabylie, parce que tu as retrouvé des personnes à Paris qui...
Ça, oui.
Hein, en plus de ton journal, évidemment, que tu avais écrit. Mais là, tu es aussi en train de faire des entretiens des ouvriers, des ouvrières et des patrons de l'usine Larzul.
C'est ça.
Hein, c'est à peu près la même période,
finalement. Là, c'était avant, parce que c'est après... Donc, mon mémoire de maîtrise, que je me suis réorientée sur la Kabylie. Là, j'ai travaillé plusieurs années avec Claudine, qui m'a accompagnée pour faire mon livre.
Donc là, tu fais tes entretiens en 1990.
Voilà.
Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu reviens sur un événement important et qui donne le titre de ton livre, Le Grand Banquet? Qu'est-ce qui fait que tu reviens sur 1957 et que tu interviews donc un certain nombre d'ouvrières, d'ouvriers et des patrons et patronnes sur ce qui s'est passé en 57?
Oui, alors en fait, mes entretiens... j'étais encore jeune à ce moment-là et mes entretiens étaient vraiment très ouverts. Simplement, je les ai gardés, je les avais transcrits, je les ai tous gardés. Et après la mort de mon père, quand j'ai eu envie d'écrire sur cette histoire qui me semblait aussi atypique, j'ai relu ces entretiens et véritablement parmi les personnes les plus âgées, dont l'essentiel avait disparu, tous revenaient sur ce moment-là du banquet. Hein. Et il y a très peu d'archives familiales, mais il y avait aussi une revue de la conserve dont mon grand-père avait gardé plusieurs extraits et qui revenait aussi sur cet événement qui avait été un grand événement à Plonéour, parce que il y a eu, donc à ce fameux banquet, en fait, qui était une fête anniversaire de l'usine Larzul, durant laquelle mon grand-père voulait bien montrer que c'était lui maintenant le patron de l'usine, en fait. Eh bien, sur les 800... Alors, donc, il y a eu messe, bien sûr, cimetière, remise de médailles aux ouvrières les plus âgées, qui dataient d'après de 1918. Et après, un banquet énorme dans l'usine, où tout le monde était sur des tréteaux et des bancs. Et c'était tout mélangé, en fait, la famille des patrons. Moi, j'avais 4 ans à l'époque, d'ailleurs, une photo où je suis. Et la famille, et puis tous les ouvriers et ouvrières, non seulement de l'usine Larzul de Plonéour, mais aussi des usines qu'avaient construites au fur et à mesure, parce qu'en fait, on ne pouvait pas vivre, c'est comme des terres, tout le monde ne pouvait pas vivre de l'usine. Eh bien, tous les frères de mon grand-père avaient construit leur usine.
Noël, dans d'autres villes.
Noël, c'était à Plozévette, Paul, c'était à Douélan, Pierre, c'était à Châteaulin, et mon père avait créé aussi une petite usine à Rennes. Voilà. Mmh. Et là, c'était quelque chose d'assez extraordinaire que de voir tous les acteurs, en fait, qui faisaient l'usine, et pour moi, en fait, c'était tout le monde ensemble, quoi. C'était quelque chose qui me paraissait énorme. Et voilà pourquoi, en fait, j'ai démarré l'histoire après les origines avec mes arrière-grands-parents. L'histoire qui démarre avec mes grands-parents, vraiment, démarre à partir de ce banquet-là. Hein, même si, après, rétrospectivement, je retourne en 14-18, 39-45 et tout.
D'accord. Donc, on est en 1957 pour ce banquet. Ouais. Et ça fait 50 ans que l'usine existe. Ouais. Donc, elle a été créée au début du 20e siècle.
Ouais.
Hein, et c'est une conserverie à la fois de poissons, de légumes et de viande. C'est pas uniquement les sardines, même si on n'est pas très loin d'autres conserveries de sardines.
Non, et puis cette usine suit aussi toute l'histoire, parce que Plonéour-Lanverne, c'est un peu loin des côtes. Les ports les plus proches, c'est Guivinec, Saint-Guénolé, Pinmar, Loctudy. Mais ils n'avaient pas... Donc, cette usine a été créée avec zéro moyen, hein, ils n'avaient pas d'argent. Et donc, du coup, un capables de pouvoir aller à la côte pour prendre du poisson. Mais le poisson est venu après. Donc, en fait, c'est en même temps toute l'histoire de ce type de conserverie qui se sont adaptées, comme en fait dans les champs on s'adaptait à tous les boulots, pour passer d'un produit à l'autre. Parce que 57, par contre, c'était le moment de la création du pâté. Et après le pâté, quand les petits pois s'arrêtent, il y a les langues, etc. Donc tout ça est progressif, en fait.
Alors c'est progressif, et en plus, au cours de l'année, on n'a pas des petits pois toute l'année. Oui. Donc il y a la période des petits pois, la période des haricots verts, la période des sardines, la période des escargots, etc. Voilà, c'est aussi dans l'année, ça évolue.
Voilà, ça évolue tout le temps. Et d'ailleurs, c'est important par rapport à la répartition des métiers, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, bien sûr. Mais pendant très longtemps, les femmes, elles étaient payées selon les saisons, simplement. Elles étaient saisonnières, elles n'avaient pas de travail fixe. Et mon grand-père, en fait, a réussi avec des produits comme le pâté, les langues de bœuf aussi, et finalement à pouvoir donner du travail aux femmes.
Toute l'année.
Toute l'année, c'était ce but. Alors, effectivement, les légumes et les maquereaux, ben non, c'était que les saisons, quoi. Oui, tout à fait.
Chaque matin, au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid. Jusqu'aux vieillards et les mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches heureux, ces pauvres enfants. Qui gagne vos millions? Ces ouvriers, en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car ils n'ont pas de jour ni même d'heure que l'on envoie du devoir, car le travail est un champ de bataille où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, qu'importe qu'il s'en aille à l'hôpital, puisqu'il n'a pas d'écu. Ces pauvres enfants, saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Combien voit-on d'ouvriers, d'ouvrières blessés soudain par un terrible engin? Que reste-t-il pour eux? C'est la misère, en récompense d'aller tendre la main. Et sans pitié, l'on repousse ces braves, après avoir rempli les coffres d'or. Les travailleurs ne sont que des esclaves, sous les courroux des maîtres du trésor. Saluez, riches heureux, ces pauvres enfants.
Que lui faut-il à l'ouvrier qui travaille? Être payé le prix de sa sueur, vivre un peu mieux que coucher sur la paille, un bon repos après son dur labeur, avoir du pain au repas sur la table, pouvoir donner ce qu'il faut aux enfants. Pour son repos, un peu de confortable, afin qu'il puisse travailler plus longtemps. Saluez, riches heureux, ces pauvres en royaumes. Qui gagne vos millions, saluez, riches heureux, ces pauvres en royaumes.
Alors, toujours en compagnie de Dominique Martre, pour le grand banquet, L'Arzul, un siècle dans une conserverie bretonne. D'ailleurs, sur la couverture, tu as bien mis Dominique L'Arzul Martre pour faire le lien avec ta famille. Moi, je te connais sous le nom de Dominique Martre.
Oui, tu as raison.
Bon, ouais. Et donc, ces entretiens que tu as menés, comment tu t'y es pris, quoi, voilà. Parce que là, c'est pas en 1957, on a bien compris, c'est dans les années 90, c'était pour un travail universitaire, mais quand tu vas voir ces femmes et ces hommes, t'es connu déjà l'usine, je crois.
Tout à fait, oui. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Alors, effectivement, quand je parle d'Ambroisine, de Marie, de Geneviève, etc., mais aussi de Jo Cariou et aussi d'Alexis Lecause, ce sont des personnes que j'ai toujours connues, que j'ai connues petites. Notamment, les deux hommes, Jo et puis Alexis, étaient des chauffeurs qui allaient toutes les semaines de Plonéour à Rennes, donc de l'usine de mes grands-parents à l'usine de mon père, et qui, au passage, livraient des conserves, en donnaient à l'usine de Rennes, qui, elle, après, les livrait dans sa région, et embarquait des confitures. Au début, c'était les confitures de mon père, après, ça a été aussi des conserves, pour les redistribuer en chemin et les stocker aussi à Plonéour, voilà. Donc, eux, ils venaient manger, quand ils venaient avec le camion, ils arrivaient le midi, ils débarquaient leurs conserves, ils revenaient avec leur camion vide et ils mangeaient chez nous. Mmh. Voilà. Donc, mon frère et moi, on les a toujours connus toute notre enfance. Donc, eux, ils nous tutoyaient, ils nous appelaient Jean-Jacques et Dominique, évidemment. Mmh. Hein. Et les femmes, c'était la même chose, parce que quand on arrivait à Plonéour, de Rennes, donc, la première chose que faisait ma grand-mère, c'était regarder si on était correct. Et puis, ensuite, on allait faire la tournée. C'est-à-dire, il s'agissait de dire bonjour à toutes les ouvrières et tous les ouvriers. Donc, ils nous ont connus haut comme trois pommes, voilà. Et comme la maison et l'usine étaient complètement voisines, voilà, il y avait une vraie connaissance, oui.
On est dans un patronat, là, pour le coup, oui. Très...
Paternaliste.
Tout le monde vit ensemble. Il y a même des ouvrières qui viennent dans la salle à manger ou dans la cuisine pour travailler. Enfin, voilà, il y a pas des séparations entre les lieux.
Absolument. Absolument. Toutes les maisons, parce qu'il y avait... moi, quand j'étais petite, on se serrait comme des sardines dans la toute petite maison qui était un ancien atelier donc où vivaient mes grands-parents, juste en face de l'usine. Donc, ils n'ont construit leur maison à la place de la maison de mes mères, de l'arrière-grand-mère, qu'en 1968. Et mon grand-père avait 68 ans, quand même. Mmh. Mais... La même personne qui avait à mon arrière-grand-père donné, enfin vendu, mais avec des délais pour rembourser absolument énormes, avec des prix super intéressants pour la première usine, a aussi vendu dans les mêmes conditions aux ouvriers des terres. Donc tout autour, il y avait aussi, quand je parle des Lecaus, par exemple, toute la famille Lecaus vivait à deux pas de l'usine, quoi, hein, parce qu'ils avaient construit là des maisons. Et nous, quand on dormait là, ben on entendait mon grand-père, parce qu'il était en chaussons de flanelle, dans la maison et dans son bureau, et puis il mettait ses sabots de bois pour aller de l'une à l'autre. Donc on entendait les sabots, on l'entendait tousser. Et après, ma grand-mère ouvrait les volets parce que c'était important que les petits-enfants des patrons n'aient pas l'air de feignants, et il fallait que nos volets soient ouverts avant qu'ils arrivent à l'usine. Hein. Donc on vivait ensemble, quoi, tout à fait.
Alors, pour revenir sur cette région bretonne, puisque tu as quand même toute une partie historique, hein, aussi, l'écho de la grève des peines sardines à Douarnenez, ça n'a pas eu beaucoup d'écho finalement dans l'usine à Larzul.
Non, Douarnenez et les peines sardines, c'est véritablement... le début de l'histoire, Larzul, parce que quand mon arrière-grand-père, qui était de même origine, vraiment, il faut dire que les ouvriers ouvrières, hein, c'est-à-dire, lui était d'une famille de tanneurs qui avaient perdu leur métier avec l'apparition des machines jacquard, et il faisait de tout. Lui, il était, quand j'ai retrouvé sa trace dans les archives, tout jeune, adolescent, il avait déjà perdu son père, et il était employé agricole. Voilà. Donc ils sont de même origine, en fait, finalement. Donc on faisait un petit peu de tout. Et voilà, quand il a voulu sortir, lui, de cette condition. Et quand il est parti au service militaire, qui a duré 3 ans, il n'a pas voulu revenir dans le pays bigoudin. Il avait, bon, je ne parle pas le breton, malheureusement, mais voilà, dans ma famille, on dit qu'il avait jeté loin sa faucille en disant « je ne couperai plus le blé ». Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et lui, il est arrivé, donc il a suivi un collègue qui lui a dit « viens donc à Douarnenez » parce que c'était la pleine période des conserveries. Il y en avait une quarantaine à Douarnenez. Hein. Donc, alors, les femmes, elles étaient ouvrières, on ne les appelait pas encore les peines sardines. Ça a été, parce que lui est arrivé vers 95-96, on les appelait les peines sardines après, dans la grande grève de 24-25. Oui. Mais n'empêche, il a épousé donc Anna Forner, qui est... une femme de Douarnenez avec la coiffe de Douarnenez et qui, elle, s'employait, ben, elle aussi, elle faisait de tout, hein, parce qu'elle était repasseuse de coiffe. Son père était mort aussi, donc il fallait bien faire manger la famille, les 3 sœurs, etc. Et donc, elle travaillait, elle aussi, à la saison, aux sardines, ou quand il y avait besoin de monde, quand les sardines arrivaient en grande quantité, ben, elle savait aussi s'employer comme ouvrière. Elle travaillait aussi dans une filature, enfin, pour faire des voiles, etc. Et là, ils sont restés quand même dans cette période de Douarnenez qu'a marqué mon grand-père, parce que on ne sait pas comment, il est devenu soudeur de boîtes de sardines. Et les soudeurs de boîtes de sardines, c'était l'aristocratie des ouvriers, en fait, quelque part. Et les patrons avaient peur d'eux parce qu'ils étaient puissants, ils étaient tous rouges. Ils avaient créé un syndicat puissant à Douarnenez. Et en plus, ils travaillaient beaucoup parce que quand ils ne soudaient pas les boîtes de sardines à la main, ils les confectionnaient. Donc dans les périodes creuses, alors que les femmes, c'était quand il y avait des sardines. Donc ça, toute cette histoire-là a marqué, en fait, les premières générations, surtout mes arrière-grands-parents, qui, après... sont revenus dans le pays bigoudin quand il y a eu cette horrible crise de la sardine, où les gens étaient affamés, il n'y a eu plus de sardines pendant plusieurs années, 1905, 1906, c'est là qu'il est venu. Donc à Plonéour-Lanverne, dans les terres du pays bigoudin. Mais comme il avait un fer à souder de Douarnenez, au début il s'est employé comme soudeur. Et là c'est la même chose, les soudeurs des ports bigoudins étaient aussi des gens très syndiqués, etc. Le souci c'est que lui avait compris avec l'arrivée des machines jacquard que ça allait être la même chose et que les sertisseuses, les machines allaient remplacer l'homme, et il avait raison en fait, c'est ce qui s'est passé. Et en 1911 ça a été terminé, les sertisseuses, donc voilà. Et c'est pour ça que lui, comme sa femme de Douarnenez donc avait été ouvrière, savait cuisiner, etc., comme lui connaissait tous les métiers, parce que tous les métiers des hommes, il y avait peu d'hommes dans les usines, mais donc il savait s'occuper de toutes les parties mécaniques et techniques, et ben il a fait un petit atelier et il a commencé à mettre des escargots en boîte parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Et c'est ses fils en fait qui les mettaient en boîte. Voilà. Après, quand il y a eu les grandes grèves, c'était complètement différent, parce que bien sûr que Charles Tillon, etc., ils sont venus dans le pays bigoudin pour effectivement amener les ouvriers à faire des grèves aussi, pour demander notamment l'augmentation des salaires des femmes, etc., d'être payées à l'heure et correctement. Mais à part les Sconil, où malheureusement les femmes ont été bernées parce qu'elles sont restées plus de 2 ans, je crois, en grève et n'ont rien eu à la suite. Souvent, dans les usines, dans les conserveries, donc soit près des ports et plus encore à l'intérieur des terres, rapidement, en fait, c'est ce que mon grand-père a fait, ce que demandaient les ouvrières, en fait, ils leur donnaient rapidement. Donc, les suites de la grève donc de 25-26 et celle de 31, c'était pareil, en fait, ça n'a pas duré longtemps.
Ça n'a pas duré. En 31, c'était 3 jours.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais,
trois
c'est
jours.
Ça.
Et donc, comme on n'est pas en bordure de mer, là, on est dans les terres.
Ouais.
Et du coup, il y a un lien très fort aussi avec les agriculteurs qui produisent des légumes.
Oui.
Et c'est comme ça aussi que des escargots, on passe
au petit pois. C'est
hein,
ça. Voilà. C'est-à-dire que quand même, il connaissait très bien le pays bigoudin. Il avait été domestique agricole, on sait très peu de choses. Mais certainement, il y avait sa famille et puis des gens qu'il connaissait depuis petit. Et donc, effectivement, quand les conserves se sont mises à marcher, qu'il y a eu quelqu'un qui l'a rencontré, qui a fait en sorte qu'il ait un brevet pour ses escargots, que ses conserves soient envoyées dans le sud de la France, aux États-Unis et tout ça, il a été aidé par un autre mécène qui lui a dit « Viens à Plonéour », parce que là, il y avait le petit train carotte qui était en train de se construire. Donc, en 1906, il est arrivé dans le pays bigoudin. En 1911, ça a été le premier atelier. On voit dans les photos, d'ailleurs, c'est en bois. C'est comme un atelier encore. Et donc, là, il a continué les escargots, mais il s'est mis au petit pois. Voilà. Et là, donc, c'était les cultivateurs locaux autour de lui, en fait.
Qui trouvaient un débouché.
Absolument.
Très proche.
Absolument.
Voilà. Court-circuit.
Absolument. Ah, absolument.
Voilà.
Et donc, il y avait, par contre, les poissons. Eh bien, c'est après la guerre 14-18, donc mon arrière-grand-père est mort peu après, que les Américains ont vendu en fait leur camion, et qu'ils ont acheté un camion, et qu'ils ont pu aller vers Saint-Guénolé, Pinmar, le Guilvinec et tout ça. Et là, c'est mon grand-père qui a développé les langoustines en boîte, pour lequel il a eu un brevet aussi. Il a été le premier à mettre des langoustines, décortiquées en boîte, mais elle ne noircissait pas parce qu'il avait inventé de les mettre dans une sorte de papier sulfurisé. C'était les petites, les ouvrières qui faisaient ça. Et donc, ça a été le premier à mettre comme ça en boîte des langoustines. Après, il en a fait à l'américaine. Et puis, il y a eu les maquereaux, les sardines, etc. Et puis après, les pâtés, c'était encore les agriculteurs, hein, c'était ceux qui élevaient des porcs. Et puis après, il y a eu d'autres produits de viande, notamment.
Oui. Ah ouais. Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, une diversification
ouais.
qui permettait de donner de l'emploi toute l'année.
Oui, c'est ça. Hein?
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de travail des ouvrières?
Oui.
Parce que les horaires étaient relativement flexibles, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'il y en a une, la Geneviève, qui raconte d'ailleurs qu'elle allait prévenir les ouvrières à vélo, qui ne faisaient pas comme l'usine concurrente qui faisait sonner une sirène horrible, et eux, ils allaient les chercher, tout ça. Mais non, bien sûr, même en pleine nuit, parfois, il y avait eu un arrivage de poissons, il fallait venir tout de suite et triper la sardine, il n'y avait pas de frigo, ça ne pouvait pas attendre, c'était encore ce qu'on connaissait à Douarnenez, effectivement, voilà. Avec les peines sardines. Et donc, oui, les femmes, elles venaient. Alors moi, ce qui m'a vraiment étonnée par rapport à ça, c'est que c'est un métier dur. Il faisait froid dans l'usine, elle travaillait des heures.
Et puis avec des doigts mouillés.
Oui, oui, hein, tout parce à fait. À l'époque, on n'avait pas de gants, il n'y avait pas d'objet en fait, qui puisse se réchauffer, etc. Ou protéger même. C'était à doigts nus hein, qu'elle faisait les choses. Et alors, ce qui m'a étonnée, quand justement j'ai été par exemple chez Ambroisine et Marie pour les interviewer et tout ça, mais qu'est-ce qu'elle rigolait ? Elle rigolait tout le temps. Et en fait, elles étaient là, c'était le bon temps. Et en même temps, elle me racontait, tu te souviens quand j'ai failli me noyer dans une grande cuve en allant chercher un maquereau, etc. C'était des conditions quand même de travail qui étaient très dures, effectivement. Ils faisaient tout à la main, il n'y avait pas de chariot, hein, les petites amenaient les boîtes à la sertisseuse à pied, etc. Celle qui raconte effectivement que elle, quand elle a voulu travailler à 14 ans, elle voulait repartir à l'école parce que un coup c'était les piments, elle avait les yeux qui pleuraient toute la nuit, un coup elle avait fait tant de kilomètres, etc. Et en même temps, pour elle, c'était le bon temps. Pour elle, c'était leur maison, elles vivaient ensemble, Ambroisine et Marie, et seule Ambroisine vit encore, elle a 97 ans. Mais
en fait, il y avait de la solidarité.
C'est
aussi
ça qu'elles aimaient.
Oui, c'est de ça l'ambiance qu'elles aimaient. Qui était créée par la solidarité
c'est ça,
entre elles.
C'est ça.
Hein?
Elle raconte, mes mères disaient, allez les filles, chantez, ça va mieux en chantant. Donc ils chantaient, et puis ouais, il y avait du respect, et bien sûr qu'il pouvait y avoir des petites tensions entre les femmes et tout, mais elles disent même entre jeunes et vieilles, on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème, etc. Bon, qu'il faut pouvoir nuancer, mais il y avait une grande solidarité. Ouais, elle dit, c'était notre maison. Et quant aux hommes, Joe, il raconte comment lui, avec son camion, effectivement, il demandait au patron s'il pouvait le prêter, et ensemble, ils ont construit leur maison ensemble, en fait, tous ceux du Clos, par exemple, à deux pas de l'usine, ils ont construit leur maison en s'aidant les uns les autres. Et donc, avec le camion du patron, parfois c'était lui qui commandait le bois, etc., etc., ouais.
On n'avait pas le droit de chanter ça dans les usines, hein. Oh, là, taisez-vous.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Déjà pourtant elles entrent à l'usine. Du matin au soir elles nettoient les sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines.
Tant qu'il y a du poisson il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'oreille.
À bout de fatigue pour ne pas s'endormir. Elles sont en cœur, il faut bien tenir.
Des sardinières.
Mmh.
lève. À plusieurs milliers se mettent en grève.
Après 6 semaines toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire.
Dans la ville rouge on est solidaires et de leur victoire les femmes sont fières.
À Douarnenez et depuis ce temps rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez et depuis ce temps
rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère.
Alors, toujours en compagnie de Dominique Martre, qui pour aujourd'hui va s'appeler Dominique Larzul Martre, puisqu'elle parle d'une dynastie dans l'usine Larzul, un siècle dans une conserverie bretonne. Le titre, c'est « Le Grand Banquet ». Alors, « Le Grand Banquet », c'était en 1957, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est en même temps, tu racontes bien que la famille des patrons n'a pas voulu collaborer pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que d'autres ont collaboré et ont gagné beaucoup d'argent, et qu'il y a eu une période quand même difficile après.
Oui, parce que effectivement, donc mon grand-père avait décidé. Donc à l'époque, il n'y avait plus mon arrière-grand-père. Il y avait la grand-mère, mes mères, il y avait sa femme et lui. À l'époque, il avait décidé de ne travailler que pour le ravitaillement français, voilà, c'est-à-dire rien du tout, et refuser de travailler pour le ravitaillement allemand. Alors que le président du syndicat des conserves de Quimper, qui a été d'ailleurs après la guerre, lui, démis de ses fonctions, il incitait au contraire tous les conserveurs à travailler. Ils ont même, dans les conserves, on a même planté des choux pour faire de la choucroute, par exemple. C'était quelque chose. Mais mon grand-père, c'était hors de question. Et j'ai toujours entendu parler de ça dans ma famille. Alors, c'est pas mon grand-père, ni ma grand-mère, ni mes arrière-grands-parents qui parlaient. En Bretagne, là, on parlait pas, on racontait rien. C'est mon oncle, en fait, qui m'a donné beaucoup de qui m'a raconté beaucoup tous ces épisodes, et puis un peu mon père aussi. Et en fait, même quand il y avait les Allemands, ils étaient partout. Ils étaient au clos avec tous leurs chevaux, etc. Ils avaient tout envahi. Ils étaient dans l'usine, les chevaux. Ils venaient boire dans l'usine aussi. Il y a même une petite ouvrière qui raconte comment les Allemands étaient chez elle et que les enfants, ils les regardaient manger le beurre et qu'eux, ils n'en avaient pas. Enfin, c'était comme ça dans tout le pays, comme partout ailleurs. Et donc, il y avait un Allemand qui était venu demander quelques conserves à mon grand-père pour ramener en Allemagne et faire goûter à sa femme parce qu'il trouvait bonne. Et mon grand-père lui a donné, mais il a refusé de qu'il lui donne le moindre argent, quoi. Ça a été donc il y a eu quand même des perquisitions. Ils sont venus fouiller chez mon arrière-grand-mère, chez mon grand-père, ils n'ont rien trouvé. Parce que mon grand-père avait mis ses fusils de chasseurs en boîte, en fait. Et il y a un épisode drôle où il y a des Allemands qui d'un seul coup crient dans la maison de mon arrière-grand-mère, parce que en fait ils crient petit canon, parce qu'ils voient une andouille fumée qui est en train de pendre. Et là, mon arrière-grand-mère a mangé un bout d'andouille et tout le monde a rigolé. Mais bon, ça rigolait pas. Il y avait pas de boulot. Les ouvrières, elles ont travaillé chez le concurrent, Raffalin, qui n'existe plus maintenant, mais qui, lui, par contre, a prospéré pendant la guerre, comme beaucoup d'autres. Il y a même un livre où l'on dit que seul, dans tout le pays, le Joseph Larzul a refusé de travailler pour les Allemands. Et eux, c'était double peine, parce que, en fait, donc, il n'y avait pas de boulot. Donc, les ouvrières partaient, les ouvriers ont construit des blocos, il n'y avait plus personne parce qu'il n'y avait pas de boulot. Ou sont mis à faire d'autres boulots comme ils avaient l'habitude de le faire, fallait survivre. Et puis, en plus, évidemment, ils gagnaient pas d'argent. En plus, ne gagnant pas d'argent, ils n'ont pas pu, en fait, se moderniser. Alors que des usines comme Raffalin, eux, ils ont fait beaucoup d'argent. ils travaillaient jour et nuit, et puis ils ont pu moderniser leur usine. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, eux, ils étaient en pleine forme et tout modernisé. Alors que l'usine Larsul, bah, c'était complètement vétuste et archaïque, et puis ils n'avaient pas un rond, quoi. Donc, du coup, après, en plus de ça, il y avait des bons pour tout, et on ne donnait des bons pour le fer, par exemple, etc., qu'en fonction du chiffre d'affaires qu'on avait, etc. Oui. C'est-à-dire, pour eux, c'était peanuts. Voilà. Et alors, il a été très, très déçu. Mes grands-parents, les deux, d'ailleurs, par De Gaulle, qui ne pouvait pas saquer, parce que, en fait, il n'a pas compris comment, en fait, il n'a pas pu être récompensé. Il n'y a rien eu qui s'est passé. Au contraire, Général De Gaulle, ça a été, bon, c'était la guerre, allez, passons vite à autre chose, il faut se reconstruire, etc. Donc, les conserveurs qui ont beaucoup travaillé, il y en a effectivement énormément. Bon, bah, il y a eu vaguement comme ça, des perquisitions, arrestations, machin. Mais, en réalité, tout s'est soldé par des dons, quoi. Enfin, de l'argent. Et c'était malhonnête pour mon grand-père, qui lui était d'une honnêteté totale. Et donc, du coup, ça lui a paru totalement injuste, quoi. Mais voilà, mes grands-parents, et comme tout le monde, leurs parents avant eux, ne se laissaient pas abattre. Et puis, ils ont continué, ils ont redressé la barre et tout. Mais bien sûr, c'était très dur. Il faut dire que parmi les conserveurs, quand je compare avec ceux de Douarnenez, par exemple, c'était des conserveries où, bah, par exemple, c'était des familles nantaises qui arrivaient. Il y en avait 3-4 à Douarnenez, mais il y en avait d'autres sur la côte Bigouden, et puis d'autres sur le, voilà, dans Arcachon, etc., etc. Alors que eux, c'était une usine, c'était une maison, une usine, quoi, en fait, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas moyen de se rattraper nulle part, quoi, en fait.
Et ton père, il avait fait des études supérieures, oui, pour qu'il a mis à profit dans l'usine aussi.
Oui, alors mon père, lui, au début, quand il s'est marié en 47, bah, l'idée c'était, comme c'était l'aîné des garçons, ils étaient deux, c'était venir évidemment épauler mes grands-parents à l'usine. Et donc là, il est venu, il a travaillé presque un an. Et ma mère était là. Alors ma mère, c'était pas du tout son biotope, on peut dire. Elle venait de Rennes. Elle était considérée comme une femme de la ville. Elle avait bien voulu essayer de voir comment on pouvait triper des sardines, mais alors là, c'était pas possible. Elle trouvait que ça sentait tellement mauvais. Enfin, elle pleurait. Sa mère lui manquait. Enfin, elle avait 18 ans, quoi. Et donc, du coup, c'est mon grand-père qui a dit à mon père, écoute, va donc à Rennes, c'est un pays où il y a des pommes, tu peux faire des compotes, etc. Mais c'était ça, en fait, hein, on faisait de tout, quoi, hein, comme... Voilà, les femmes, quand il n'y avait plus de sardines, les ouvrières, elles faisaient du picot, les hommes à l'essier ou à les facteurs, enfin bon, ils se débrouillaient. Donc voilà, lui, il est parti à Rennes et il avait fait des études de chimie. C'est comme ça qu'il avait connu ma mère, d'ailleurs, en louant une chambre. Et mon oncle a fait des études de mécanique, donc supérieurs tous les deux, mais dans la tradition familiale, mon grand-père qui avait dû arrêter l'école à 14 ans parce que c'était la guerre 14 et que son père était parti, son frère aîné aussi, pour lui c'était une grande frustration, il a essayé de continuer à travailler tout le reste de sa vie, et les études supérieures, c'était important, mais du concret, du technique. Donc, ils n'ont pas fait du tout des études de commerce, par exemple, l'un ni l'autre. Voilà.
Ils ont fait des études qui pouvaient servir,
c'est ça,
dans l'usine.
C'est ça.
Voilà, que ce soit la mécanique ou que ce soit la chimie.
C'est ça. Mon oncle, lui, il a été autour des machines à petits pois, etc. Ça l'intéressait. Lui, il aurait voulu faire des études d'architecte. Et lui, il a fait des travaux dans l'usine. Voilà, après être arrivé. Et puis, bon, et voilà, il essayait donc de s'intéresser à toute cette technique. Mais malheureusement, c'était dur parce que, à un moment donné, alors qu'il venait d'acheter une nouvelle machine pour les petits pois parce que les agriculteurs le demandaient, et bien voilà, il y a eu d'un seul coup la lutte anti-alcoolisme Qui a fait que ben voilà, on a les gros producteurs de betteraves à sucre pour faire le vin, etc. On leur a donné la possibilité on leur a donné de l'argent en fait pour qu'ils transforment leur métier, et donc ils se sont mis dans l'Oise, notamment tout près de Paris, planter des petits pois,
ouais,
ce qui a fait que voilà,
beaucoup plus proche de Paris,
c'est
pour
ça, voilà,
l'approvisionnement.
C'est ça. Et donc là, ça a été une crise parce que, pour mon nom, tout ça, c'était quand même un métier super, en plus en lien avec les agriculteurs, etc. Et puis, mon grand-père a décidé, stop, arrêt des petits pois, parce que de toute façon, on n'est plus compétitif. C'est là qu'il est venu aux langues, par exemple. Donc, mon oncle et mon père, ils ont suivi les choses, et ils ont fait exactement comme leurs ancêtres.
Quand tu parles de langue, c'est langue de bœuf.
Oui. C'est vrai, mais nous, langue de bœuf sauce madère, avec le pâté, c'est les produits phares de l'usine. Moi, les langues, c'est... Les ouvrières, elles me disaient, quand les langues sont venues, tu vois, c'était un joli terme. Ouais.
Voilà, et du coup, alors aujourd'hui, on en est où dans cette usine Larzul et dans cette famille et dans cette grande famille d'ouvriers et d'ouvrières?
Alors, oui, évidemment, les choses ont changé, mais c'est quand même une des rares usines à être restée familiale, en fait. Là, maintenant, c'est mon cousin qui a quasiment mon âge, Michel, qui dirige avec sa femme Emmanuel l'usine Larzul. Donc, c'est la quatrième génération, en fait. Il y a eu mes arrière-grands-parents, grands-parents, père et oncle, et puis mes deux cousins ont pris le relais. Alors là, eux, ils ont essayé, c'est drôle d'ailleurs comme processus, parce qu'ils ont essayé de justement laisser un peu de côté tous les produits traditionnels inventés par mon grand-père, pour essayer des choses plus modernes, etc. Mais en réalité, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils se sont remis aux produits traditionnels, en fait. Ils sont revenus au pâté, ils sont revenus à la langue de bœuf, même aux escargots. Mmh. Hein, et donc, on reboucle, en fait, finalement, complètement... Ouais.
Et l'histoire des crêpes, alors ça n'a pas fonctionné,
c'est
ça.
C'est triste, ça. Je pense mon grand-père, il est mort, il avait 75 ans. Et pendant... pendant, on va dire, les 5 années, dernières années de sa vie, il voulait faire quelque chose de bien avant de mourir, quoi. Parce que je pense qu'il avait déjà décidé de mourir dans son usine, ça c'est clair. C'était vraiment son lieu, quoi. Son lieu de vie. Mais donc il voulait faire un produit super qui allait permettre, parce que comme c'était toujours l'idée, à la fois à la famille de vivre, donc nous hein, tous, et puis aussi aux familles d'ouvriers, hein, parce que l'embauche se faisait de manière très familiale aussi, hein, c'était la cousine, le fils, etc. Et donc il a fait des tas d'essais sur des crêpes qui étaient délicieuses, des crêpes aux fruits de mer. Mais c'était vraiment très très bon. Mais comme mon grand-père, lui, c'était pas du tout l'aspect argent qui l'intéressait, commerce, etc. Lui, c'était le produit de qualité. Lui, dans sa tête, du début jusqu'à la fin, c'est tu fais un produit de qualité, il se vend. Voilà, tout seul d'ailleurs. Hein, voilà.
Sauf qu'il y avait une main-d'œuvre énorme.
Alors voilà, c'est ça. C'était que ça demandait une main-d'œuvre énorme, parce qu'en plus, lui, il n'y avait pas de machine. Hein. C'est-à-dire, on continuait à amener les boîtes, à les voir. Il fallait qu'on les voie pour lui jusqu'au bout, avant que le couvercle, plaf, ne tombe et que la boîte ne soit sertie. Il fallait regarder. Hein. Notamment, si les langues de bœuf, il n'y avait pas des petits points noirs. Si dans les petits pois, il n'y en avait pas un jaune, etc. C'était ça. Donc évidemment, c'était pas des chaînes rentables, on va dire, hein, du tout. Et puis donc cette crêpe aux fruits de mer nécessitait beaucoup de manutention, des produits fins, etc. Et il a déployé une énergie mais énorme pour essayer de les commercialiser partout. Et puis il a pas réussi. Voilà. Et mon frère et moi, on pense que le fait de tomber avec ses chaussons de flanelle, de glisser dans son escalier, de se casser le col du fémur, ça a été l'occasion pour lui de partir très très rapidement. Il est parti, effectivement, d'ailleurs, quand ma mère était en Kabylie aussi, voilà. Et pour nous, il s'est laissé mourir, quoi, parce que c'était... D'abord, il était fatigué, puis pour lui...
Il avait 75 ans aussi.
Voilà, il avait 75 ans, et ne plus pouvoir s'endormir. Il s'endormait dans son bureau, mon oncle me disait, les dernières années, etc. Il y allait tous les dimanches et tout, mais bon, il devait sentir que c'était...
Et alors, fatigant. Tes cousins, j'ai lu... ils ont toujours l'usine Larzul, c'est 82 salariés, c'est ça?
Oui, et après...
Et 11 cuisinières et ça. Cuisiniers.
C'est-à-dire que ça a quand même beaucoup changé. Alors d'abord, c'est pas les deux, là. Il y a un des frères qui est à la retraite, il n'y a plus qu'un des deux sur l'usine. Mais en fait, évidemment, du temps de mon grand-père, il y avait, comme disent les ouvriers, il y avait les patrons et nous autres, quoi. C'était tout, en fait. Et après, quand mon cousin, ils avaient fait des études, donc Jean-Pierre d'architecture et puis Michel lui de commerce. Je sais plus où j'en suis.
Là, on était en train de dire que il y avait 82 salariés.
Ah oui, voilà. Donc, effectivement, quand ils sont venus, eux, ça s'est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que à ce moment-là, et du temps où étaient encore mon oncle et mon père, il y avait d'un seul coup eu plein de cadres intermédiaires, si tu veux, et de moins en moins d'ouvriers. Mmh. Et maintenant, ça, c'est comme ça. Donc,
parce qu'il y a des machines.
Parce qu'il y a des machines, et surtout parce qu'il y a des cadres. Avant, il y avait ça, il y avait les patrons et les ouvriers, point. Et il n'y a qu'une seule contremaîtresse qui a embauché d'ailleurs dans ce grand banquet en 57 ma grand-mère, et dont j'ai changé le nom d'ailleurs. Et elle est malmenée par les ouvrières. Les ouvrières ne l'aimaient pas parce que c'était un intermédiaire. Alors, dans les usines, chez Raffalin et tout ça, c'était ça depuis longtemps. Dans des tas d'usines d'Ouarnenice, dans le pays Bigoudin, il y avait aussi des girants. Mais eux, c'était les patrons. Puis les patrons étaient dans l'usine avant eux et après eux, c'était comme ça, quoi, en fait. Donc là, c'est beaucoup plus diversifié. C'est des métiers de cadre ou de voilà, enfin en tout cas d'encadrant et beaucoup moins d'ouvriers, quoi.
Ouais. Et j'ai lu qu'il y avait 50 produits différents.
Oui. Ouais.
Voilà. Donc on est bien loin de des quelques produits.
Oui, tout à fait.
Qui étaient privilégiés. Ouais. Oui. Les années précédentes.
Par contre, c'est quand même dans le même esprit de diversifier. Quand même, ça quand même, ça c'est dans la famille depuis le début, ça. Ouais. Ouais.
Alors ton livre, il est intéressant parce que c'est des histoires que t'as remontées par rapport à des interviews, des entretiens. Hein. Ouais. Tu les as fait vivre comme des personnages.
C'est
quoi,
ça.
Hein. Donc ça c'est super intéressant. Là je tombe sur la chocolaterie par exemple. Ouais. Hein. Il y a des photos aussi. Ouais. Alors c'est des photos de famille que t'as récupérées. Dans la famille et qui sont des belles photos, il y en a certaines, elles sont belles. Et puis du coup, on voit les étiquettes des produits Larzul qui évoluent. Bon, on voit quand même la coiffe bigoudaine à chaque fois, assez souvent. Donc ça, c'est aussi un livre qui est intéressant parce que ça parle de ta famille, mais ça parle d'une histoire sociale.
C'est ça.
Et puis avec des photos qui sont en appui avec cette histoire sociale. Voilà. Moi, j'ai eu plaisir à le lire, à me rendre compte qu'est-ce que c'était qu'un camion aussi. Parce que c'était quand même pas les camions qu'on connaît aujourd'hui, frigorifiques et tout
c'est ça.
C'était des vieux camions
des verriers,
et qui tombaient en panne et qu'il fallait être aussi technicien. Il y a une photo super là où on voit ces femmes avec leur coiffe et puis d'autres sans coiffe, mais elle est très bien prise, celle-là.
Oui, c'est à la sortie du grand banquet. Alors, j'ai des photos de famille et des photos aussi de, on ne sait pas pourquoi, le député Peuziat de qui était à Douarnenez était là, a pris des photos aussi. Donc, j'ai sa fille, Michel Peuziat, m'a donné la possibilité de reproduire toutes ces photos. Ouais.
Et alors, pour terminer, qu'est-ce que ça te fait d'avoir fait ce livre à toi? Parce que c'est aussi ton histoire familiale, mais c'est aussi inscrit dans une histoire sociale, comme oui. Je le disais. Hein.
Écoute, j'ai été j'ai décidé ça à la mort de mon père. Mon père est mort en 2019. Et bon, je raconte la scène où il m'a fait rencontrer Douarnenez, son histoire, etc. Je suis vraiment heureuse parce que le 9 mars, il y a eu en avant-première la présentation de ce livre à Plonéour, parce que j'ai travaillé avec Pierre Gloanec, qui est président d'une association Plaisir de lire. Donc il m'a beaucoup aidé, je le connaissais pas avant, mais donc voilà, il m'a beaucoup aidé sur il connaît bien Plonéour et donc il m'a donné des informations, etc. Et puis après, donc il m'a invité avec son association à Plonéour dans une grande salle de la mairie. Voilà, pour présenter ce livre. Et il y avait la maire, d'ailleurs, qui a fait un pot de l'amitié, il y avait un préfet, il y avait des personnalités. Félix Le Garec, qui a fait la photo de la couverture, et sa femme, que je connais bien aussi. Enfin bon, il y avait 166 personnes. Mmh. Et donc, j'ai été très étonnée. La veille, dans une librairie de Pont-l'Abbé, l'air de Broca, il y a eu une séance dédicace, donc moi je m'attendais à... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent dans les séances dédicaces, quoi, tu vois. C'est sympa, mais bon, 46 livres qui ont été vendus. Et les gens qui venaient, donc il y a eu bien sûr de ma famille, mes cousins, etc. Mais les gens qui venaient, ils avaient tous à me raconter une histoire avec l'Arzul, où c'était technique, où c'était telle personne très vieille, ou au contraire plus récente, etc. Et tu sais, j'ai bien connu ta grand-mère, et je me suis retrouvée avec des cousines lointaines. Donc là, mais moi, c'est du côté de mes mères, des Pensardines et tout ça. Moi, c'est du côté, au contraire, Bigoudin. Enfin, et c'était super. Et les gens me remerciant d'avoir écrit cette histoire. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, 46 personnes. Là, demain, à Plonéour, il y aura pas grand monde. 166 personnes. Et 66 livres qui ont été vendus aussi.
Ah oui.
Et idem, à la dédicace, quoi, c'était bouleversant parce que, bon, une grande partie de ma famille est venue. Moi, j'avais donné le livre à mon frère, à mes cousins, qui ont complètement validé parce qu'ils y ont retrouvé vraiment chacun nos pères et notre enfance, en fait. Hein. Mais il y a certains passages que j'avais fait lire aussi aux descendants, en fait. Par exemple, Edith Cariou, la fille de Jo Cariou, elle m'a aidée aussi. Elle a lu, elle a dit, eh ben ça, j'ai rien à dire. C'est exactement ce que me disait mon père. Elle se souvenait d'être venue avec nous, d'être venue avec son père en camion, t'imagines, de Plonéour à Rennes, et d'avoir mangé avec mon frère et moi quand elle était toute petite. Enfin, et c'était assez bouleversant. Et alors, il y a particulièrement dans les remerciements, donc, c'est que ce soit de ma famille ou les ouvriers, c'est on connaissait pas toute cette histoire.
Ouais.
Donc, notamment, on connaissait pas le début. Hein, on parlait pas, tout le monde bossait, il s'agissait pas de raconter sa vie, etc. Donc là, pour eux, ça donne une fresque, quoi.
Ouais.
Quelque chose de vraiment leur propre histoire. Et puis, la famille des ouvriers et les ouvrières et ouvriers actuels aussi disent c'est super parce que tu fais parler les ouvrières qui sont souvent invisibles, en fait, quelque
bien
part.
Sûr.
Et là, je les mets vraiment en scène.
Oui, parce qu'on interviewe les patrons, mais pas les ouvrières et
voilà.
Les ouvriers.
Hein, ou pour illustrer un truc, si tu veux, tu vois.
Oui.
Mais là,
tu leur donnes
beaucoup
de place.
Bah oui,
place.
C'est vraiment tous les propos qu'elles ont tenus, mais comme tu dis, je les ai mis en scène.
Oui.
Comme mon père et mon oncle, hein, c'est une scène que j'ai inventée aussi, mais c'est leurs propos, par contre.
Oui.
Et tout le monde les retrouvait, en fait. Ils se sont complètement retrouvés là-dedans. Donc, en fait, ils m'ont... Ouais, je suis contente de ça, parce que sur le plan de l'histoire locale, de l'histoire familiale, c'est quand même une usine qui existe encore, comme il y en a peu. Les gens étaient vraiment, vraiment contents, ouais. Tout à fait. Alors après, j'ai élargi aussi, là j'étais aux journées nationales de l'APA, c'est l'association pour l'autobiographie, et là dans une table ronde, on m'a fait parler du lien entre la recherche et les archives familiales, par exemple, tu vois, c'est intéressant, parce que c'est vrai que moi, en fait, dans mes trois livres, c'est ça en fait, c'est mes récits à la première personne, mais en donnant toute la place à mes personnages, et aussi cette posture d'ethnologue quand même, et ces recherches en histoire et en ethnologie que je fais. Donc tu vois, j'essaie aussi de dépasser aussi simplement l'histoire locale. Et les femmes, je trouve que c'est par rapport au sujet des femmes, c'est quand même super intéressant d'entendre parler comme ça des ouvrières, quoi.
Bah, je te remercie beaucoup, Dominique.
Merci à toi, Hélène, merci beaucoup.
De victime, on se voit coupable. force pour nos luttes. Sans la vérité, la peine est que songe de liberté. Rendre la dignité à tout être, mort ou vivant encore. L'amour soutient notre présent, la haine a tout détruit. Il nous révèle de l'humain l'horreur et la beauté. Nous voulons que sa justice devienne un acte responsable. Notre force vient du fond des âges. Elle vous a mis au monde. Nous n'espérons plus rien pour nous. Nous avons tout perdu. Ne pas se renier, se battre pour l'enfant qui espère en nous. La force de l'amour est de survivre au monde. Tout ce qui l'en empêche pousse l'être à la révolte. La force de l'amour est de survivre au monde. Tout ce qui l'en empêche pousse l'être à la révolte.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes dans l'émission Femmes Libres et pendant l'interview de Dominique Martre, nous avons écouté les chansons suivantes. Alors d'abord Nolwenn Leroy qui chantait Tri Martholode, puis Marie-Aline Lagadic et Claire Virivière qui nous ont chanté Saluer riche et heureux. Ensuite le groupe breton a interprété Peine Sardine. Et pour finir, vous venez d'entendre Fanchon des Mers qui a chanté Les Souvenantes. Alors, eh bien, nous passons maintenant à l'heure des infos, des communiqués et des rendez-vous. Alors, commençons par la journée d'études sur les VARS, éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. C'est le lundi 26 mai à partir de 14h30 dans la salle 50 au bâtiment EHESS Condorcet au métro Front Populaire à Aubervilliers. C'est organisé par Fanny Gallo. Et la thématique, c'est les VARS dans les établissements scolaires, mise en œuvre et contestation. Alors ensuite, une application, règles élémentaires qui présente Regla. Elles sont fières de vous annoncer le lancement de Regla, la première application qui recense les lieux de mise à disposition de protection périodique gratuite en France. Alors ensuite, un film, Michel Rollin. Pour son film « Mémoire de l'histoire ouvrière, le Métron », il sera diffusé à la SCAM le 23 mai à 19h. Jean Métron, c'est le pionnier de l'histoire ouvrière. Il initie en 1955 une entreprise colossale, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, communément appelé le Métron, qui s'inscrit dans une conception novatrice à l'époque et d'une histoire sociale tissée par les histoires d'inconnus. Le film évoque cette formidable aventure collective et la figure de son créateur, également historien de l'anarchisme, à travers les témoignages de ses successeurs et des archives, dont certaines inédites. Alors, c'est à l'auditorium Charles Brabant. La SCAM 5, avenue Velasquez, dans le 8e, métro Villiers ou Manceau. Entrée libre dans la limite des places disponibles. On peut réserver par mail à rolin.michel@sfr.fr ou par téléphone le 06 28 36 27 16. Alors maintenant, deux expos. D'abord, Gogol Script de Marie-Hélène Leny, du 3 avril au 26 mai à Nuage Vert, centre des alternatives au 122 rue de Bagnolet, dans le 20e, les vendredis et samedis de 14h30 à 19h. Puis, Moureres par Amanda Hart du 25 avril au 30 mai. Moureres, c'est une série de grands portraits de femmes inspirantes de l'Amérique latine d'hier et d'aujourd'hui. C'est au Café Fusain, 50 avenue Parmentier à Paris. Alors maintenant un livre, D'amour et de force, une généalogie du soin, de l'autrice et journaliste mexicaine Daniela Rea. Elle présente donc son livre le vendredi 23 mai à 19h, en présence de Juliette Rousseau à la librairie, un livre et une tasse de thé, 36 rue René Boulanger, dans le 10e à Paris. D'amour et de force, c'est une généalogie du soin. C'est un ouvrage sur le sens critique du soin et la maternité, d'après l'expérience de Daniela, et la mise en œuvre et les expériences de prendre soin de 13 autres femmes, filles, mamans et sœurs. Alors, un séminaire, celui de sexe et genre, le vendredi 23 mai à 14h. Donc, c'est au CNAM. Et c'est Catherine Villard, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur de Paris. Cofondatrice du réseau international de recherche sur le cerveau et le genre. Et donc, elle va présenter Neurogenderings. Voilà, donc c'est dans l'amphithéâtre Fabry Perrault, 292 rue Saint-Martin, au CNAM, à Paris, dans le 3e. Ensuite, vous pouvez voir un documentaire, Voyage de documentation de Madame Anita Conti, un documentaire de Louise Hénon, France Hutong Productions. La séance sera suivie d'une rencontre avec Louise Aymon. C'est le mardi 27 mai à 21h au Forum des Images, 2 rue du Cinéma, Paris 1er. Anita Conti est la première femme océanographe française et elle embarque en 1952 sur un chalutier de pêche à la morue en Atlantique. Avec sa caméra, seule femme à bord, elle va partager pendant 6 mois la dure vie de l'équipage de 60 hommes. Voilà, Louise Aymon, quant à elle, réalise des films et met en scène des pièces de théâtre. Son premier long métrage de fiction, L'Englouti, est présenté à la Quinzaine des cinémas à Cannes cette année. Alors ensuite, la Maison des Femmes organise une fête pour la soutenir. C'est le dimanche 25 mai à partir de 17h à la guinguette solidaire La Javelle dans le 12e arrondissement. L'entrée se fait par le boulevard Poniatowski au sud de la porte de Charenton, avec les fanfares féministes Thermomix 3000 et les Muses Tang. C'est une fête mixte, tout public, entrée libre. Alors ensuite, l'affaire French Bukake, c'est une décision historique de la Cour de cassation. C'est un article de Oser le féminisme du 20 mai. Elles écrivent « Nous, associations, organisations et femmes politiques, féministes, antiracistes et engagées pour la dignité humaine, nous nous félicitons de l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la Cour de cassation dans l'affaire dite French Bukake. Cet arrêt vient heureusement censurer une décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris de février dernier qui était profondément entachée de stéréotypes sexistes et racistes. » et gravement défavorable aux victimes. En effet, aujourd'hui, la plus haute juridiction reconnaît bien évidemment que les nombreux viols que la partie civile ont subis dans leur chair étaient aggravés par le sexisme et le racisme des propos qui les accompagnaient. La Cour de cassation est en cela un arrêt totalement inédit et a également fait une application stricte de la loi conformément aux nombreuses conventions internationales et textes européens contraignants. Alors vous pouvez lire la suite de ce texte sur le blog d'Oser le féminisme. Alors nous allons passer aux publications des éditions du Monde Libertaire. C'est par un premier livre, Séquences libertaires de MLT qui a fait les textes et OLT les dessins. C'est un album à 15 euros. Et un deuxième livre, L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique de Philippe Pelletier, un livre à 10 euros. Alors je vous annonce aussi un colloque, Art, anarchie et émancipation, qui aura lieu le 14 juin à la Hairie, à Montreuil, au 57 rue Étienne Martial. On pourra entendre Christiane Carlu, La Commune de Paris et le luxe communal, Nicolas Éprendre pour Reclus et la peinture, Raphaël Romé pour Littérature ouvrière et paysanne, puis Fabienne Bruegel, Baule et le théâtre des opprimés, Isabelle Marinon, Cinéma et anarchisme, Sandrine Malika Charlemagne qui nous fait la chronique Opus poétique, un film aux côtés d'Armand Gatti, André Robert, La poésie visuelle, une esthétique anarchiste, Amanda Hart, Séverine, journaliste anarchiste, Hélène Hernandez, l'animatrice de l'émission Femmes Libres, Nelly Trumel, peintre et féministe et anarchiste, Priscilla Nouvelle, danse, quête de liberté, Jean Aubel, parcours d'un chanteur libertaire. Et Sylvia Krostowska, Joël Guéraud et Guy Girard, Rêve, Révolte, Révolution, une anarchéologie du surréalisme et en parallèle deux expositions, Amanda Hart et Expo Surréaliste. Alors c'est le temps du temps des cerises. Alors, les animations de la librairie Publico au 145 rue Amelot, Paris 11e, Métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire. Je vous rappelle que la librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, et du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h. Alors, du 2 au 23 mai, il y a une exposition VIS d'Even. Le mercredi 21 mai à 20h, Ciné Commune, Le Village contre la Multinationale, c'est une projection débat. Le vendredi 23 mai à 19h, Le Procès Papon de Jean-Jacques Gandini, une rencontre débat proposée par l'émission Chronique Rebelle. Et du 24 mai au 21 juin, une exposition Happy Fingers Pochoir. Et le vernissage, c'est le 24 mai à 16h. Alors pour la prochaine émission, le programme, ce sera le mercredi 28 mai 2025, l'opus poétique avec le livre Par le regard de ces autres mal-nés d'Alexandra Crété, coédition Le Merle Moqueur et Atlantique Déchaîné, maison d'édition Révoltée et Survoltée. Puis OLT, Séquences libertaires, coédition des éditions libertaires et des éditions du Monde libertaire, MLT pour les textes et OLT pour les dessins, présente des planches illustrant par de courts récits les vies de celles et ceux qui veulent vivre libres, sans Dieu ni maître, de révolution en répression et en liberté arrachée. Les anarchistes restent debout contre tous les pouvoirs. Donc c'est le temps de nous quitter et je vous dis bonsoir et féministe tant qu'il le faudra. Et pour clôturer cette émission, nous allons passer Estelle et Sylvestre qui chantent l'hymne des femmes.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.
Rester au bord des ferrures et ne pas aller d'un seul bond. Faire monter la température avant les assauts furibonds. Quand son cri devient sa nature, quand la joie touche à la torture, quand on rit des égratignures, quand on boit vos éclaboussures. Faire alors présent de son pieu, dont le désir est impérieux.
L'amour, procéder.
L'amour, comment procéder? On n'est pas une sinécure. Voyons ensemble comment procéder. Puis enfin, ne pas étourdir l'être aimé, ne pas l'assaillir. Bien garder encore la mesure et rester encore détendu. Un assaut de musculature aurait pour effet bien confus. De se voir mener à conclure, encore éloigné de son but. Soudain, voyant sa cambrure qui se soulève et qui conjure, bien dévoilée son envergure et la bourrée sans fioriture. Et qu'alors en est un second,
vous dicte bien votre abandon. Comment procéder ?
L'amour, procéder.
L'amour, comment procéder ?
L'amour, procéder.
L'amour, comment procéder ?
L'amour,
l'amour,
procéder.
Comment procéder ? L'amour n'est pas une sinécure, mais nous avons vu de quelle façon procéder.
L'amour, procéder.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
A place by the river, you can see the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy, and that's why you want to be there, and she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her you have no love to give her, she takes you in her arms and she lets the river